dissonances.
Trois fois par mois, histoire de voir les choses autrement, sous un autre angle ou dans une autre perspective, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des parcours de vie. Des parcours vécus par des gens comme vous et nous, des voix dissonantes, des voix d'hommes et de femmes qui portent un éclairage différent sur nos rêves et nos folies.
Dissonance.
Joseph Fula sur Radio Sainte-Afrique.
L'écriture est en moi à tous les instants, de la seconde du lever au coucher et probablement dans le sommeil. Tous les instants, guerre ou paix, jouissance ou souffrance, désespoir ou bonheur, dans la ville ou dans les bois, dans la solitude ou le partage, n'existent que parce que je les écris. Si je regarde une bogue de châtaigne, je la décris. Si je suis au théâtre ou au concert, j'écris le spectacle ou la musique et parfois je retranscris après et j'y mets le temps qu'il me faut pour que ça colle. L'écriture n'est pas la doublure de ma vie, elle me la fait vivre. Je ne dis pas comprendre la pensée d'une autre nature. Elle en est l'accomplissement et la délivrance, ma porte de la nuit. Si ce n'était cela, j'aurais publié depuis longtemps. Et je l'aurais voulu par goût, par vanité, par narcissisme, par altruisme, par souci de paraître ou crainte de disparaître. En écrivant, je suis vivante dans l'intensité, incorrigiblement, avec ferveur, pour le meilleur et pour le pire. Parce que j'ai perdu toute illusion d'absolu, j'accepte la banalité du relatif. Et parce que je l'accepte, parce que j'accepte la logique qui fait que l'absurde de nos vies la libère de toute interrogation sur le sens, ne prend sens que parce qu'on la vit quand même. Je ne peux voir la publication comme l'aboutissement de l'écriture, mais comme une logique convenue.
Cette voix, ces mots sont ceux de Geneviève Brun, une citoyenne du monde qui réside dans le sud de la France à Millau.
Dissonance tient à vous faire vivre une heure aux côtés de Geneviève, car c'est quelqu'un qu'il fait bon de croiser en ces temps de repli sur soi et de haine de l'autre.
Portée par les cris depuis sa tendre enfance, entourée d'amour dans une famille modeste, sa sensibilité à l'autre l'ont rendue réfractaire aux injustices.
Geneviève, sensible et rebelle, c'est l'auteur de plusieurs centaines de critiques théâtrales ou cinématographiques qui, pendant plus de 30 ans, ont fait le bonheur des lecteurs de la revue Théâtre Public.
Geneviève, rebelle et humaine, c'est aussi l'enseignante atypique, exerçant en lycée professionnel, qui a marqué ses élèves tant elle a su leur transmettre cet amour de l'autre et leur redonner confiance. Elle leur disait
« Soit vous considérez que vous êtes tous des idiots, soit moi je pense qu'il est bien possible que ce soit l'école qui soit idiote avec vous. »
Geneviève Brun, humaine et femme debout, c'est aussi l'auteur d'écrits, de pamphlets contre l'injustice, le racisme, contre la destruction du patrimoine.
Cette femme debout est la personnification vivante du texte de Michel Buller que vous allez entendre en début d'émission, chanté par Francesca Soléville. Ce poème dit
« Avec mes simples mots, avec mes pauvres armes, avec les sacrifiés, les vaincus d'autrefois, tous ceux qui n'avaient rien que leur sang et leurs larmes,
avec les femmes usées, petites sœurs de misère, avec tous ceux d'ici qu'habite la colère, avec les méprisés et ceux qui n'oublient pas,
je me bats. Geneviève se bat avec ses mots, ses écrits. Elle agit aussi, notamment, auprès des migrants et des laissés pour compte, qu'elle accompagne sur le chemin de l'espérance et de la dignité.
Mais ce courage, enfin, savoir tout ce qu'ils ont traversé et oser considérer que c'est pas normal qu'ils soient là, qu'ils nous empoisonnent la vie. Putain, mais ceux qui empoisonnent la vie, ce sont aussi, ce sont beaucoup plus des gens d'ici, justement, qui regardent sans connaître. Mais qu'ils apprennent à connaître, qu'ils ne partent pas avec « c'est un étranger, donc c'est forcément quelqu'un de nuisible ». Ils ont des richesses que nous n'avons pas, des courages que nous n'avons pas.
Et puis, il y a la Geneviève pudique, qui hésite à se livrer, qui rechigne à faire publier ses nombreux manuscrits.
Dissonance espère soulever le voile de cette pudeur, en préambule de la soirée du 7 décembre, où, invitée par la compagnie « Création éphémère », Geneviève Brun fera pour la toute première fois une lecture publique d'un de ses tout derniers écrits, à son image, sensible et rebelle.
Même si l'heure est parfois à la désespérance, attendu que la frime gouverne et fait sa loi, même si les années dans lesquelles on s'avance ont la couleur du triste et du chacun pour soi. Même si le bonheur n'est plus une évidence, mais semble s'éloigner à chacun de nos pas. Même si l'on me dit que c'est perdu d'avance, que le monde est ainsi et qu'on n'a pas le choix, je me bats. Même si maintenant c'est être en résistance et risquer d'être seul que d'élever la voix pour dire sans relâche l'incroyable arrogance des plus riches que tout, des maîtres d'ici-bas. Même si le normal c'est l'infinie souffrance des enfants décharnés aux yeux vidés sans joie. Même si le correct se nomme indifférence, même s'il parle fort ceux qui baissent les bras, je me bats. Je suis d'un temps d'espoir, d'un temps de délivrance, où l'on osait rêver et les peuples là-bas faisaient tomber leurs chaînes et brisaient le silence. Oh, les jolis printemps, au parfum de lilas, devant nous se levaient des matins d'innocence. Plus jamais il n'y aurait d'humiliés, de parias, plus jamais d'esclavage et plus de violence. N'était-ce pas simplement raison? Dites-moi, je me bats. Aujourd'hui, les passants, sous les néons sinistres, vont chacun dans leur bulle et pressent un peu le pas. Les voyous brassent l'or, les bornés sont ministres, et l'on met chapeau bas devant les renégats. L'époque est au commerce, l'époque est aux combines. L'homme n'est qu'un objet que la finance broie. Le futile et l'idiot remplissent les vitrines, cependant qu'au lointain ricane l'argent roi. Je me bats. Avec mes simples mots, avec mes pauvres armes, avec les sacrifiés, les vaincus d'autrefois, tous ceux qui n'avaient rien que leur sang et leurs larmes, les mineurs, les canuts, les piou-piou, les sans-droits, avec les femmes usées, petites sœurs de misère, des bas quartiers debout où se terrent les rats, avec tous ceux d'ici qu'habite la colère, avec les méprisés et ceux qui n'oublient pas, je me bats. Si longtemps que j'aurai la force, qu'on le sache, de me tenir debout, de chanter, d'être là, tant qu'il me restera une once de panache, tant que dans mes veines un sang rouge coulera, je me battrai encore et toujours et sans cesse pour saluer la vie qui palpite, qui bat. Et quand je m'en irai, ce sera sans tristesse, puisque d'autres viendront qui diront après moi, je me bats, je me bats.
Dissonance.
Avec Geneviève Brun.
Bonjour Geneviève. Pour préparer cette interview, tu m'as dit « L'écriture est au cœur de ma vie ». Il paraît que tu écris depuis l'âge de 10 ans.
Oui, c'est vrai que probablement avant l'âge de 10 ans, et mon père, qui était d'origine extrêmement modeste, a eu la chance d'avoir un instituteur qui s'appelait Monsieur Doucet, moi qui n'ai aucune mémoire des noms, je l'ai retenu, qui, quand il a passé le certificat d'études, lui a fait découvrir la poésie. À partir de ce certificat d'études, eh bien, il avait toujours un carnet dans sa poche avec un crayon. Alors, je vais arrêter de parler de mon père.
C'est en voyant ton père que tu as eu envie de lire et d'écrire.
Très vite, j'ai continué à écrire, quoi. Enfin, parce qu'aussi lui-même écrivait, ô combien, puisqu'il a eu une revue. Alors qu'il était né à 9 ans, il faisait berger pendant l'été. Mais cette passion que lui a donnée son instituteur fait qu'il a eu une revue qui paraissait en France, puis qui est parue dans les pays de langue française. Et donc, ça s'est répandu partout. Il a correspondu avec plein de gens, dont Senghor. Et moi, j'ai toujours vu mon père. Je me levais le matin, je me réveillais le matin. Ça faisait tap, 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 parce qu'il tapait à la machine déjà. Le soir, on s'endormait avec, voilà. Et puis, il adorait Baudelaire, il communiquait ça. Enfin, il me l'a communiqué. Donc j'ai baigné là-dedans et je suis restée dans l'écriture. Il était autre. Et je pense que moi-même, j'ai toujours eu envie d'être autre. Enfin, en tout cas, d'exister. Donc, pas de me construire par moi-même, parce que je sais à quel point le substrat dans lequel j'ai poussé m'a complètement construite. Donc, je pense que j'ai eu beaucoup de chance de naître dans un milieu modeste. Mon grand-père paternel avait été gazé pendant la guerre de 14. Je sais qu'ils avaient eu, avec ma grand-mère, donc une magnanerie du côté de je ne sais plus comment ça s'appelle, du Vigan même. Bon. Et puis, il a été gazé, et donc quand il est rentré de la guerre, il a fallu qu'il vive, surtout pas avec des vares à soie, donc il est devenu bûcheron. Ma grand-mère était une femme au foyer, elle a eu 5 enfants, comme dans toute. Il y a des petits qui sont morts en chemin. C'était vraiment des pauvres gens. Et de mon grand-père, je le voyais toujours arriver, courbé dans le droit sous des fagots. Comme il avait toujours les yeux par terre, et pour cause, des Templiers, une fois il m'avait rapporté une biche minuscule en plastique rose, et pour moi ça a été un cadeau magnifique, parce que mes grands-parents paternels nous offraient rien, enfin, mais pour cause, ils n'étaient pas. Mais ça, je trouvais que c'était un cadeau merveilleux. Parce que qu'il ait vu cette petite chose colorée et qu'il ait pensé que sa petite fille serait heureuse de la voir, c'était pas un homme qui parlait. Mais ça, moi, ça m'avait bouleversée, quoi. Et je l'ai toujours gardé. J'ai toujours gardé ces petites choses. Alors, du côté de maman, mon grand-père avait été mineur. Quand il était jeune, enfin, vers 17-18 ans, enfin, quelque chose comme ça. Et puis après, il était devenu les paysans, mouleurs. Enfin, voilà. Mon grand-père avait des moustaches superbes, des yeux gris-bleus. Il était très beau et fringant. Et après, je parlerai de ma grand-mère plus tard, parce que ma grand-mère maternelle a beaucoup, beaucoup compté dans ma vie, voilà. Enfin, à partir de sa mort, encore plus qu'avant. Et j'avais 10 ans aussi. On était pendant tous les fêtes religieuses, en particulier, Noël, Pâques, etc. Donc, chez les grands-parents. Et il y avait des chèvres, on partait avec maman dans la châtaigneraie, il y avait les gerbes, comme ça, les feux d'artifice parfumés des châtaigniers. Et elle avait dans son sac, qui était composé de petits morceaux de cuir cousu, elle avait son tricot et Alice au Pays des Merveilles. Et puis, un sou était un sou, pas par avarice, mais parce qu'effectivement, il n'y avait pas beaucoup d'argent, donc l'argent même avait une valeur réelle, j'ai presque envie de dire aussi symbolique, hein, qui faisait que quand on achetait quelque chose, bon, c'était une fête. Et donc, la valeur des choses, la valeur de tout ce qu'on ne peut pas avoir, ou l'absence de valeur de tout ce qu'on ne peut pas avoir, parce que j'ai presque envie de dire ça, ce qu'on ne peut pas avoir magnifie ce qu'on a. Et quand tous les dimanches on avait droit à la meringue en dessert, c'était une fête. Voilà. Donc je pense que le manque, à condition qu'il ne soit pas très douloureux et mortel, en fait, je ne suis pas pour la misère. Hein. La misère, bien sûr, non, il ne faut pas la misère.
Toutes ces valeurs liées au milieu modeste t'ont porté toute ta vie, quoi.
Oui.
On l'a tué à coups de chasse-pont, à coups de mitrailleuse, et roulé avec son drapeau dans la terre argileuse, et la tourbe des bourreaux gras se croyait la plus forte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. comme faucheurs rasant un pré, comme on abat des pommes. Les Versaillais ont massacré pour le moins 100 000 hommes, et les 100 000 assassinats, voyez ce que ça rapporte. Tout ça n'empêche pas, Nicolas, que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas, Nicolas, que la commune n'est pas morte. Ils ont fait acte de bandits, comptant sur le silence, achevé les blessés dans leur lit d'ambulance, et le sang inondant les draps, ruisselait sous la porte. Tout ça n'empêche pas, Nicolas, que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas, Nicolas, que la commune n'est pas morte. Les journalistes, policiers, marchands de calomnies ont répandu sur nos charniers leur flot d'ignominie. Les Maximes Ducamp, les Dumas ont vomi leur eau forte. Tout ça n'empêche pas, Nicolas, que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas, Nicolas, que la commune n'est pas morte. C'est la hache de Damoclès qui plane sur leur tête. À l'enterrement de Vallès, ils en étaient tout bêtes. Fait est qu'on était un fier tas à lui servir d'escorte. Ce qui prouve en tout cas, Nicolas, que la commune n'est pas morte. Ce qui prouve en tout cas, Nicolas, que la commune n'est pas morte. Bref, tout ça prouve aux combattants que Marianne a la peau brune, du chien dans le ventre, et qu'il est temps de crier vive la commune. Et ça prouve à tous les Judas que si ça marche de la sorte, ils sentiront dans peu nom de Dieu que la commune n'est pas morte. Ils sentiront dans peu nom de Dieu que la commune n'est pas morte.
Dissonance
avec Geneviève Brun.
Quand même, à l'école primaire, j'ai eu Madame Labitte, qui a marqué profondément, parce que on avait 9 ans, 10 ans, et elle nous a fait apprendre, le bateau ivre. Alors pas en entier, mais je trouve qu'il fait un sacré culot pour être une institutrice qui fait, qui lit et qui. Je pense qu'elle aussi, elle m'a appris que de ne pas avoir des stéréotypes, les enfants de tel âge sont comme ça, comme ça, comme ça, et de leur faire confiance. Voilà. Je pense qu'elle faisait confiance aux enfants pour entrer là-dedans.
Et ce qu'elle t'a appris, c'est ce que tu as réinvesti dans ta vie professionnelle.
Je suppose. Oui. Je n'ai pas fait de lien, mais je l'avais tellement intégré que c'est évident que mes élèves ont profité de Madame Labitte, quoi, de ce qu'elle m'avait appris. Oui, certainement. Oui.
Parle-nous-en de ce que tu faisais avec tes élèves, parce que c'était une pédagogie formidable. Je me rappelle de choses comme journal intime.
Alors, oui, j'ai eu CAP et BEP. Avec les élèves, d'abord, en début d'année, je passais au moins une semaine en dialogue. Parlez-moi de vous, enfin, de votre rapport à l'école. Bon, alors, tous détestaient ça. De toute façon, « Oh, moi, madame, de toute façon, je suis nulle, alors c'est pas la peine d'insister, je suis nulle. Hein. » Bon, on leur avait dit certainement toute leur vie. D'abord, j'ai pris le temps de voir d'où ils venaient.
Voilà, la première semaine.
Voilà. Et il était évident qu'ils étaient tous de milieux modestes. Il n'y en avait pas un qui avait choisi de faire menuisier parce qu'il aimait le bois, hein, et qui était premier de classe en troisième. Donc je leur ai dit, écoutez, soit vous considérez que vous êtes tous des idiots, je suis nul, en fait, etc. Soit, moi, je pense qu'il est bien possible que ce soit l'école qui soit idiote avec vous. Par conséquent, partons sur ces bases-là. Alors, soit vous souhaitez rester là où on vous a enfermé, soit, voilà. Et donc, j'aurais dit, on va avoir des méthodes qui ne seront pas celles que vous avez suivies. En particulier, je me souviens, les parents qui protestaient parce que je ne sais pas de dicter.
Oui.
Hein, bien évidemment, aborder l'orthographe autrement. Mais voilà. Et donc, il m'a semblé qu'il fallait d'abord leur rendre leur dignité. Enfin, qu'ils se rendent compte que non, ils n'étaient pas des idiots, mais voilà. Je n'ai jamais renoncé à parler avec eux quand je voyais qu'il le fallait. Je n'avais aucun, à ce moment-là, pendant 17 ans, j'ai eu aucun inspecteur. Et je me suis dit, j'avais dit avant que de toute façon, s'il y en avait un qui venait, s'il me disait que je ne faisais pas ce qu'il fallait faire, je le mettrais dehors en lui disant qu'il m'avait laissé faire n'importe quoi pendant 17 ans. Voilà. Alors, j'ai été inspectée, j'avais pris d'ailleurs Rimbaud, enfin, et à un moment, il y a un arbre dedans, et je donnais sur la partie qui donne de la nature au lycée à Jean Vigo. Et je les ai fait lever pour regarder les arbres qui prennent conscience que l'arbre, ça peut être un chêne, ça peut être ceci, ça peut être. Voilà, observer, déduire, enfin, voilà. Et si vous voulez parler d'un arbre, que ça serait bien qu'il précise lequel. Voilà, qu'il ait cette curiosité et de s'approprier aussi les mots pour nommer. Voilà.
Et l'inspecteur a trouvé cette méthode intéressante.
Alors l'inspecteur, non seulement il m'a pas jeté, mais il m'a proposé de faire, de diriger un groupe de recherche formation à l'IM, comment ça s'appelle ?
L'UFM.
L'UFM, merci. À l'UFM. Alors avec mes élèves, comment j'ai fait ?
Tu portais un regard vraiment extraordinaire sur plein de confiance,
oui,
d'humanité.
Oui.
De générosité aussi.
Oui. Je pouvais les engueuler, hein. J'étais pas forcément tendre.
Ah oui,
mais
ça n'explique pas.
Au contraire, je pense que... J'ai surtout trouvé ce que tu as rencontré après.
Hein, ouais.
Je me suis dit, comment faire pour qu'ils, par exemple, qu'ils surveillent l'orthographe sans faire de cours de grand-mère. S'il fallait quand même faire un sur... Bon, je pouvais le faire, mais... Donc, je leur ai proposé de tenir un journal, mais un faux journal. C'est-à-dire, je leur ai dit, vous inventez une famille, vous inventez une maison, vous inventez des lieux, si vous êtes blond, brun, vous racontez, vous inventez des frères et des sœurs, des parents, etc. Et à partir de là, vous tenez un journal. Mais je veux que vous inventiez, voilà. Et donc, ils ont eu un cahier pour ça. J'avais la chance à ce moment-là d'avoir un proviseur qui a accepté le dédoublement, qui n'était pas obligatoire, pas du tout, enfin, qui n'était même pas... voilà. Ce qui fait que j'avais un demi-groupe, une dizaine, 10-12, pendant 2 heures, où je pouvais donc voir les choses avec eux. Et ils me donnaient... leur choses à corriger, enfin m'a regardé.
Quel boulot de correction.
Et oui, mais c'était très intéressant. Je n'ai pas trop souffert. Donc je soulignais au crayon. Je soulignais les fautes d'orthographe au crayon. Et puis je les prenais un par un pendant le temps qu'il fallait, 5 minutes, 10 minutes. Enfin, bon, en tout cas, je bouclais, ça marchait, quoi. Et je leur disais, la semaine prochaine, vous revenez avec les choses corrigées. Et je n'ai jamais marqué quoi que ce soit au stylo rouge, rien. C'est-à-dire qu'après, ils effaçaient et ils avaient leurs choses à eux. voilà. Ils avaient leur roman à eux. Voilà. Alors, j'avais fait ça. Et puis, après, je leur ai demandé, mais ça, c'était en lien avec l'histoire, puisque je faisais français et histoire. Je leur ai demandé de chercher leur origine, parce que y avait des Espagnols, des Italiens, des Marocains, des Algériens, y avait un peu de tout, quoi, voilà. Et donc, qu'ils aillent voir leurs parents, leurs grands-parents, pour qu'ils parlent de ce qu'ils ont vécu. Voilà. Super. Donc, revenir dans le passé de la famille, enfin, ce qui, avec des vivants, en parlant. Avec, bon, alors, inutile de dire que les grands-parents et les parents étaient. Il y en a qui sont venus me voir en disant à quel point c'était précieux pour eux, parce qu'ils ne pouvaient pas parler jamais de leur vie avec. Et là, pour eux, c'était vraiment. Ils rentraient en contact avec leurs enfants, avec leurs petits-enfants ou avec leurs enfants.
Tu as revu ces enfants des années plus
oh,
tard.
Oh mon Dieu.
Qu'est-ce qu'ils t'ont raconté?
Mon Dieu,
comment
mon
ils
Dieu.
Ont vécu?
Mon Dieu,
quel est le retour?
Ça, c'est mon grand bonheur, le seul bonheur d'être resté ici. Enfin, le seul, non, n'exagérons pas. Oui. Mais parce que il n'y a pas une semaine sans que j'ai tel. Alors, vous me reconnaissez, madame? Alors là, je sais qui. Quand c'est cette question, voilà. Un soir, en fait, non, il faisait nuit, et passé dans la rue, et je voyais un peu au loin un groupe de jeunes hommes, et puis j'entends Madame Brun, oui, et je vois un grand gaillard qui vient vers moi, qui me dit, vous me reconnaissez? Je dis, mais j'étais menuisier, en fait, je faisais, ah oui, et il se met à me dire, il y a longtemps que je voulais vous rencontrer. Il me dit, je voulais vous dire, ma petite nièce, ma nièce, a passé le brevet. Eh bien, vous savez pas, eh bien, c'est moi qui lui ai aidé à le préparer. Et je voulais vous dire merci, parce que sans vous, je n'aurais pas pu. Voilà. J'ai eu une seule année, dont une classe qui rassemblait, ce qui n'était pas non plus très pratique, mais des menuisiers, des maçons, et je crois aussi mécanique auto. Enfin, donc, mais c'était une petite classe, hein, ils étaient une quinzaine. Voilà, j'avais mis la table en carré, et ça a été assez épique, parce qu'ils étaient quand même, comment dire, hein,
vivants.
Ah oui, tout à fait. Je me souviens, on étudiait, je dis on, donc la Seconde Guerre mondiale et les camps de concentration, et l'antisémitisme, en fait, le racisme. Donc un des garçons dit, parce qu'il y avait pas mal d'Algériens ou de Marocains d'origine, dit, oh moi, les Arabes, ça ne me dérange pas du tout, mais les Juifs, je ne peux pas les voir. Si j'en ai un face, je le tue. Alors, je me lève, et je me mets en face de lui, et je lui dis, eh bien, allez, tirez. Alors, stupéfait, il y avait son voisin, je le revois toujours. Il faisait, ouh, j'en ai la chair de poule, ouais. Ouh, j'en ai la chair de poule. Et il me dit, mais c'est vrai. Bien sûr, je dis que c'était vrai, c'était pas vrai, mais c'était vrai.
Ouais, ouais.
J'ai dit, oui, pourquoi ça change quelque chose? Vous me voyez autrement? Vous me voyez... Voilà. Ça a été mon cours sur le... Voilà. Sur le racisme et voilà.
Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, nus et maigres, tremblants, dans ces wagons plombés, qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps, leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps. Survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Il s'appelait Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel. Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus, peuvent-ils être heureux? Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues.
les Allemands guettaient du haut des miradors. La lune se taisait comme vous vous taisiez en regardant au loin, en regardant dehors. Votre chair était tendre à leur chien policier. On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été. Je twisterai les mots s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez vingt et cent, vous étiez des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez vingt et cent.
Dissonance
avec Geneviève Brun.
Une partie de ta vie où tu es l'enseignante innovante, tu es aussi la dame qui s'investit dans le monde de la culture dans Mio, qui écrit dans la presse, qui écrit des critiques de pièces de théâtre ou de films. Tu es aussi la personne engagée au niveau citoyen. Quelle est l'image de toi que tu préfères quand les gens te rencontrent dans la rue? Tu préfères que ce soit un élève, que ce soit un conseiller municipal chargé de la culture, ou que ce soit une jeune maman qui est migrante? Enfin, je ne sais pas.
Écoute, je crois que je n'établis pas de
hiérarchie.
De différence, de hiérarchie, d'accord. Oui. Bon, c'est, si celui qui est conseiller municipal, là par contre, là, c'est, bon, je reste courtoise.
Bien sûr.
Je reste courtoise. Mais non, en tout cas, bon, les migrants, en plus, j'héberge. Enfin, pour moi, c'est comment dire, je reste muette parce que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, quoi. Quand il suffit, enfin, la différence, c'est une chance phénoménale. Parce que je vois des femmes, bon, je ne dirai pas de nom là, mais elles ont des courage, surtout les femmes, je pense, en fait, je connais peut-être plus de mais il y a un courage phénoménal, il y a une générosité phénoménale par rapport à chez les migrants. Oui, oui. Pour moi, ce sont des sœurs, ce sont mais ce courage, enfin, savoir tout ce qu'ils ont traversé et oser considérer que c'est pas normal qu'ils soient là, qu'ils nous empoisonnent la vie. Putain, mais ceux qui empoisonnent la vie, ce sont aussi ce sont beaucoup plus des gens d'ici, justement, qui regardent sans connaître, mais qu'ils apprennent à connaître, qu'ils ne partent pas avec c'est un étranger, donc c'est forcément quelqu'un de nuisible. Ils ont des richesses que nous n'avons pas, des courages que nous n'avons pas, et des générosités aussi que nous n'avons pas, parce que c'est vrai que s'ils peuvent t'aider, enfin, je ne sais pas, il y a une fraternité, il y a une vraie fraternité qui se crée. Et je pense que tous ceux qui rejettent au nom de la, de quoi, de la patrie, au nom de quoi, hein, je suis français, donc je ne peux pas me mêler avec des gens qui sont pauvres, qui sont misérables, qui souffrent, parce que c'est ça. Quel rapport il y a, enfin, c'est très difficile de comprendre le racisme, en fait. C'est très difficile pour moi de comprendre le rejet de ces gens. Enfin, n'importe lesquels d'ici, et parmi les moins riches en particulier, ou les plus pauvres, hein, qui vont voter Front National, ils sont beaucoup plus proches de ces gens. Ils risquent beaucoup plus que n'importe qui d'être obligé un jour d'être migrant, d'aller chercher ailleurs le travail. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi? Et puis, et par ailleurs, bon, quoi, quand on est avec les autres, et ben, il y a l'accent qui est pas tout à fait le même. Mais on rit de la même façon, on aime la pâtisserie de la même façon. Enfin, quand c'est pas de la même façon, c'est encore plus intéressant parce qu'ils nous racontent comment leur vie. Et ça, c'est passionnant aussi. Putain, on lit des romans qui se passe ailleurs, on voit des films qui se passent ailleurs, mais allons-y par la parole, vers eux et ce qu'ils nous apprennent à nous. Enfin voilà, je me suis un peu exaltée, mais je trouve que ce sont des contresens, quoi, et que les premières victimes, les premières victimes, certes, ce sont ceux qui sont arrivés là, mais ce sont ceux qui croient à ce qu'on leur dit, qui se sentent menacés, par des gens qui sont comme eux, qui sont dupes d'un discours. Et que avoir plus pauvre que soi, c'est valorisant. Enfin, je m'entends pas dans mes critères, mais ce sont des boucs émissaires. Hein. Ils peuvent se servir. Je suis plus que le migrant. Enfin, en tout cas, je suis français, je suis sur, etc. Quoi, tous les privilèges de celui qui est chez lui. Voilà, donc je pense qu'ils sont dupes de ça. Comment faire pour que ces gens qui sont contre les migrants rencontrent ces migrants? Comment faire pour qu'ils les rencontrent? Alors, ça arrive, hein, je me souviens à la fabrique, on avait fait une fournée pour tout, c'était très bien, parce qu'il y a des gens qui sont venus, et une femme qui disait « Pourquoi je suis là ?» Ben parce que j'aime les gens. Bon, c'est aussi simple que ça, quoi.
Heureusement, je n'ai pas d'enfant, se dit Yana très souvent. Ce serait encore plus dur, encore plus humiliant. Et puis, comment elle aurait fait avec un bébé comme Pactage? Est-ce qu'il aurait survécu après tout ce voyage? Yana a fui les bombes, la guerre dans son pays. Elle sait qu'elle avait peur, mais ne sait plus de quels ennemis. Entre les tirs de son président, des rebelles, de l'Occident, de Daesh et des Kurdes, elle ne sait plus d'où vient le vent. Elle ne sait plus d'où vient la poudre qui a rasé son village. Elle ne sait plus qui tire les balles qui ont éteint tous ses visages. Elle sait juste que l'homme est fou et que c'est là-bas en Syrie que s'est formé petit à petit l'épicentre de sa folie. Yana pense à tout ça en s'approchant de ma vitre. Moi je lui dis non avec la main et je redémarre bien vite. J'avais peut-être un peu de monnaie, mais je suis pressé, faut que je bouge. Je me rappelle de son regard, j'ai croisé Yana au feu rouge. Après 3 mois de périple dans toutes sortes d'embarcations, elle a souvent cru que la mort serait la seule destination. Comme lors de cette nuit noire au milieu de la mer Égée, dépassée par les vagues sur un bateau bien trop léger. Entre les centres de rétention et les passeurs les plus cruels, Yana a perdu de vue tous ceux qui avaient fui avec elle. Elle se retrouvait seule avec la peur, le ventre vide et des inconnus aussi perdus qu'elle comme seul guide. Marchant pendant des semaines puis payant à des vautours le droit de se cacher à l'arrière des camions sans voir le jour. Après ces mois d'enfer, elle passe ses nuits sur un carton. Son Eldorado se situe porte de la chapelle, sous un pont. Yana pense à tout ça en s'approchant de ma vitre. Moi je lui dis non avec la main et je redémarre bien vite. J'avais peut-être un peu de monnaie, mais je suis pressé, faut que je bouge. Je me rappelle de son regard. J'ai croisé Yana au feu rouge. Dans ces nuits, les cauchemars d'expulsion sont réguliers. Elle attend d'obtenir le statut de réfugié. Elle mendie au feu rouge avec la détresse comme bâillon. Elle se renseigne sur ses droits, petite princesse en haillons. Elle imagine parfois sa vie d'étudiante dans son pays. Si la justice avait des yeux, si la paix régnait en Syrie. Elle sourit même parfois quand elle trouve la force d'y penser. Elle rêve en syrien, mais là elle pleure en français. J'aperçois Yana rapidement lorsque le feu passe au vert. J'ai un petit pincement au cœur, mais je suis en retard et j'accélère. Les plus grands drames sont sous nos yeux, mais on est pressé, faut qu'on bouge. Il y a des humains derrière les regards. J'ai croisé Yana au feu rouge.
Dissonance
avec Geneviève Brun.
Je suis d'une exigence de logique, de cohérence et de précision de vocabulaire terrible. Je peux passer, je ne devrais pas le dire, 20 heures sur un article d'une page. Parce que je pense, alors ça c'est aussi le rapport à l'écrit, à l'écriture, hein, je pense qu'une virgule mal placée, ça change le sens. Je pense qu'un vocabulaire approximatif, voilà. Et donc là je suis dans la volonté d'être efficace, et cette efficacité pour moi passe par la précision extrême et voilà. Et c'est la même chose quand j'écris sur le théâtre ou sur le cinéma ou sur ce sont des critiques, ça s'appelle critique. Alors oui. J'allais à Paris tous les week-ends, j'avais la chance d'avoir un emploi du temps groupé, et je passais à Paris le vendredi, le samedi et le dimanche. Et à Paris, j'étais dans un milieu artistique, culturel, enfin, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Hein. J'allais beaucoup au théâtre. En plus, je partageais ce temps avec une amie qui était écrivain, qui avait produit à la télé aussi. Et donc, j'ai effectivement rencontré au théâtre de Gennevilliers, j'ai rencontré Bernard Sobel, qui était à la fois metteur en scène et directeur du théâtre et de la revue Théâtre Public, slash Public. Bernard Sobel a trouvé que ce que je disais était très intéressant, et par la suite donc il m'a proposé une collaboration à la revue, une collaboration libre à la revue Théâtre Public. Et j'ai fait des articles aussi sur le cinéma à 30 ans, oui.
30
ans. Oui, ça fait très longtemps, oui. Alors ça s'est arrêté, en fait, quand Bernard Sobel a pris la retraite déjà, et puis ma vie a changé, je suis redevenue beaucoup plus provinciale, bien que gardant des liens avec Paris, bien sûr. En fait, j'ignorais tout de milieu. Parce que comme j'étais la semaine, je travaillais, le soir, j'allais beaucoup au cinéma. André Oscola, ça c'était la merveille d'André Oscola. Ces salauds qui ont osé le virer, Guy Durand, et puis après pour le donner à un truc privé qui fait Donc hommage à André Oscola, parce qu'on a vu grâce à lui des merveilles d'Ouzbékistan, de Machel, de trucs, des films qu'on n'aurait jamais vus, et qui étaient d'une qualité merveilleuse, qui ouvrait l'horizon, voilà. Et donc là je me suis mise à écrire aussi sur le cinéma, voilà. Et puis bon, maintenant c'est la catastrophe.
Dissonance avec Geneviève Brun.
Et alors, parle-nous de ce qui va se passer le 7 décembre à Millau au Théâtre de la Fabrique.
Alors, dire d'abord que la Fabrique, enfin, en tout cas que la compagnie Création Éphémère, c'est un peu ma seconde famille. Parce que je les connais depuis très longtemps, en fait, depuis 20 ans, peut-être 22, depuis. Et j'avais donné une représentation sur le site du château de Peyrelade, et c'est là où j'ai vu les acteurs, les comédiens supposés handicapés mentaux, qu'on désigne comme handicapés mentaux, et j'étais bouleversée en particulier par Florence de la force de leur présence, la justesse de, enfin, j'ai été absolument bouleversée, et du coup je suis allée régulièrement à la Fabrique, puisque là c'était tout à fait par hasard, Je pense que ce qu'ils ont de plus précieux, c'est le sens du partage, de la rencontre et du partage. Ça, ça n'est pas pour rien que les comédiens différents, dits différents, sont là, s'épanouissent complètement et sont prodigieux. Enfin, oui, c'est la générosité, l'engagement, l'intelligence. Il y a une humanité très profonde. Et cette humanité, elle a la capacité de permettre à des gens qui sont marginalisés d'exprimer justement cette humanité. La ville n'a pas pris conscience de la richesse qui était là. Je suis allée à Toulouse avec eux, je les avais accompagnés à Toulouse, où il y avait des politiques, il y avait une vidéo, pas vidéo d'ailleurs, si peut-être vidéo, conférence avec Berlin. Et le directeur du festival de Berlin disait mais la compagnie Création Éphémère est un phare pour l'Europe. Moi j'ai entendu ça. C'est un phare pour l'Europe. Je n'ai jamais vu de spectacle chez eux qui ne soit très très fort et qui traduise, qui parle du monde actuel à travers justement
Et tu leur donnes tes mots alors?
Eux savent très bien que j'écris depuis longtemps, ils ont lu, il leur est arrivé d'avoir entre les mêmes de mes textes, et ils m'ont annoncé, il y a un mois à peu près, qu'ils souhaiteraient me consacrer une soirée. Quand ils m'ont proposé ça, j'ai été d'abord un peu affolée, parce que je ne savais pas si je tomberais pas dans des trous, et puis surtout parce que j'ai 15 manuscrits. Comment trier là-dedans? Comment chercher le texte que je vais lire? Voilà. Non, je pense. Ce qui est prévu, c'est probablement. Enfin, que je les lis, mais d'autres peuvent les lire aussi. Enfin, bon. Alors, ce qui m'affole un peu, c'est que ça sera le matin qu'on va décider pour le soir. Et je suis très, très inquiète par rapport à ça. Mais.
C'est pas donné aux animaux, pas non plus au premier blaireau. Mais quand ça vous colle à la peau, putain, qu'est-ce que ça vous tient chaud. Écrire et faire vivre les mots sur la feuille et son blanc manteau. Ça vous rend libre comme l'oiseau, ça vous libère de tous les maux, ça vous libère de tous les maux. C'est un don du ciel, une grâce qui rend la vie moins dégueulasse, qui vous assigne une place plus près des anges que des angoisses. Poème, chanson, brûlot vous ouvre des mondes plus beaux. Des horizons toujours nouveaux qui vous éloignent des troupeaux. Il suffit de quelques mots pour toucher le cœur des marmots, pour apaiser les longs sanglots quand votre vie part à volo, quand votre vie part à volo. C'est un don du ciel, une grâce qui rend la vie moins dégueulasse, qui vous assigne une place plus près des anges que des angoisses. Ceux d'un Brassens, d'un Nougaro, la plume d'un Victor Hugo éclaire ma vie comme un flambeau. Alors gloire à ces héros qui par la magie d'un stylo et parce qu'ils font vivre les mots emmène mon esprit vers le haut, emmène mon esprit vers le haut. C'est un don du ciel, une grâce qui rend la vie moins dégueulasse, qui vous assigne une place plus près des anges que des angoisses, qui vous assigne une place plus près des anges que des angoisses.
Le texte que je vais lire en premier, c'est je les avais accompagnés dans un village du Pays Basque où ils donnaient une représentation, et il y avait un centre culturel. Et j'ai vu des marionnettes dans la structure, c'était un squelette avec des crânes qui étaient travailler, mais enfin, voilà. J'ai été saisie, j'ai été complètement bouleversée de voir ces choses-là. Et quand j'ai rencontré Bati, donc, qui les avait fabriquées, et il me dit, mais ce qui m'ennuie, c'est que je n'ai pas trouvé de scénario pour le jouer, voilà. J'étais tellement bouleversée par ça que m'est venu, donc, le texte que je... Voilà, que je vais lire.
Et donc, ça va être la première fois que le public va te voir sur scène.
À la fabrique, il n'y a pas à proprement parler de scène. Moi, je n'ai jamais fait de lecture, à part
c'est
avec mes élèves.
C'est une nouvelle étape dans ta vie, là.
Je ne sais pas. Je pense qu'elle est justement complètement en continuité.
Voilà, tu ne vois pas ça comme un aboutissement.
Voilà.
Fais-nous l'honneur d'avoir une lecture d'un passage de tes textes.
J'ai une grande diversité d'écriture. C'est-à-dire que je peux aussi bien avoir des textes qui viennent pendant que je me promène. Et la nature est très... Je prends le premier, mais que j'avais oublié. Écoute, je le lis, je ne sais pas du tout si on pourra le garder. Solstice d'hiver. Prise dans ces temps chaotiques, universels et singuliers, entre épuisement, colère et enthousiasme, je tente de rejoindre le présent, au-delà de ce 24 décembre 2013, dont je ne parviens pas à chasser l'obsession. Emmanuel était opéré à Neuilly pendant que chez moi, en robe de dentelle noire, je dressais pour moi seul, sur une nappe d'argent, une table de Noël et des bougies pour garder vivante la vie. Et la vie me revient avec l'écriture, les musiques, le théâtre, et tous ces jeunes et moins jeunes qui les font vivre et tentent d'en vivre, avec un enthousiasme intrépide, parfois du génie, un don pour l'échange, la complicité et le rire, et la générosité du partage. Hier soir, je suis allée à La Sablière, village du XVe siècle à Flans, sous les falaises, à une trentaine de kilomètres de Millau, restauré et investi par quelques-uns d'entre eux qui ont créé des ateliers ouverts à tous. J'étais seule sur la route de ces gorges du Tarn, étroites et profondes, totalement obscures dans la nuit. Et seul encore pour descendre le sentier bordé de brûlots jusqu'à la rivière. En face, le village au chemin d'escalier, balisé de lumière ou de feu, magique. Quand je marche, de toute façon, chaque fois que je me promène, je décris, je fais intérieurement. Donc là, j'avais écrit une sorte de journal, pas de journal, ça s'était fait tout seul, écrit de l'eau et des bois. Alors là, ça commence le 21 janvier. Marche au lever du jour le long du Tarn. J'ai envie de le sortir maintenant qu'ils ont bousillé toutes les berges. Les berges désertes encore. Plus tard viendront les hommes et les chiens. Le silence ouvert au bruit de l'eau, au battement d'ailes et au cri des oiseaux. Le rose sombre du jour se dilue dans le gris des nuages. Il fait terriblement doux en ce 21 janvier. J'aime trop les saisons pour ne pas détester cet air doux printanier dans lequel je me coule délicieusement, mais qui fait ouvrir les fleurs en plein hiver, pâquerettes, pervenches, primevères, pissenlits et les minuscules géraniums sauvages.
Les branches des arbres sont gonflées de bourgeons, les camélias s'ouvrent dans les jardins et les lauriers teints, dans leur feuillage obscur, font de grands bouquets de fleurs blanches. Yin et Yang, un couple de corneilles croise un couple de mouettes. Un vol noir traverse la rivière, crie rauque, et rejoint sur le grand peuplier, blanchi de guano, les ombres chinoises des cormorans qui ont échappé à la battue de 200 têtes. Deux sarcelles plongent et remontent bien après que leur ronde dans l'eau ait disparu. Sur la rivière, le W éphémère du double sillage de couples de colverts, accompagné parfois du V ouvert d'un mâle célibataire. La colonie a renoncé depuis longtemps à toute migration et ne cesse de rire quand on passe. Le longe le mur de soutènement de la rocade, couvert de grands graffitis colorés. Les mots d'amour y côtoient les cris de guerre. Une tronçonneuse tout contre une gueule grande ouverte. Rêve ou plainte. Moins 10 degrés Celsius, Noël, one, nos possibilités. Passer Noël ensemble, notre Noël famille, point de suspension. Sur des silhouettes noires trouées d'une ébauche de fenêtres jaunes, un ciel sombre piqué d'étoiles. Écrit au jardin de lumière et d'argent, etc. Voilà. Voilà. C'est... voilà, donc ça, j'en ai un journal de ça.
Merci beaucoup, Geneviève.
Merci à toi.
Merci à toi.
Vous trouverez sur la page Dissonance du site de Radio Sainte-Afrique un lien vous permettant de réécouter cette émission, mais aussi divers liens vous donnant des compléments d'informations sur la compagnie Création Éphémère et le Théâtre de la Fabrique où interviendra Geneviève Brun ce vendredi 7 décembre à 20h30 à Millau.
Vous y trouverez aussi sur la même page la liste des musiques entendues.
Cette émission sera diffusée sur nos ondes mardi 27 novembre à 18h, puis mercredi 28 novembre à 14h, et enfin samedi 1er décembre à 16h. Vous pouvez aussi, bien entendu, la télécharger depuis notre page internet pour l'écouter à votre guise.
Salut.
Et fraternité.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin, pas comme il faut. Ceux qui, avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltonien de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. Les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps, qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs et qu'on les remercie, qu'on leur dise en leur cri merci d'avoir vécu, merci pour la tendresse. Tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont